Les rencontres d'Edmond Morel. Roland Bayenne, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution du dernier et dixième volume de la correspondance de Michel de Gelderode, dont le dernier volume est publié aux AML Éditions. Mais avant d'entrer dans ce livre, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, parce que vous êtes tout de même une sorte d'énigme dans le monde littéraire belge, ne serait-ce que par vos origines. Vous êtes enfant, votre papa était pêcheur, votre maman tenait une poissonnerie à Nieuport, vous vous êtes insurgé contre l'idée de succéder à l'entreprise de votre père, et vous avez passé 50 ans de votre vie consacrés à la littérature française et 30 ans à la publication de la correspondance de Gelderode. Alors, comment ça s'est passé?
C'est évidemment extrêmement compliqué. C'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est la raison pour laquelle je suis maintenant en train d'écrire un petit peu une espèce d'autobiographie critique où je raconte comment un enfant de pêcheur peut ainsi, de pêcheur flamand de Nieuport, peut ainsi devenir professeur d'université en français. Et c'est ce que je suis en train d'écrire maintenant et que j'espère publier. Peut-être cette année-ci, l'année prochaine, sous le titre « Pour en finir avec Gelderode ». Mais je ne me fais évidemment pas d'illusions. Je sens fort bien que c'est en fait un truc de ma part pour pouvoir continuer. Parce qu'en finir avec Gelderode, ça je ne pourrai en fait jamais. J'ai encore une documentation énorme, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais la façon dont j'y suis arrivé, c'est le premier qui m'a posé cette question, c'est Jean-Luc Couterce, que vous connaissez bien. Donc j'étais à la Foire du Livre en 2000, je pense. Je travaillais sur Jacqueline Harpin. J'avais un cours de littérature française de Belgique. J'aimais beaucoup Jacqueline Harpin. J'achète son nouveau livre. C'était son premier qui venait de reparaître, Et je lui demande une petite signature, une petite dédicace. Et Jean-Luc Couterce était à côté d'elle. Et il dit, et le bonjour de Jean-Luc Couterce. Et il me dit, mais Roland, il faudrait quand même qu'un jour tu écrives un livre sur ta passion pour Gelderode. Et j'en ferai la postface. Alors je l'ai promis à ce moment-là. Mais cette correspondance m'a pris tant de temps que j'ai commencé plusieurs fois, mais j'ai abandonné, mais maintenant j'y suis.
Je remarque d'ailleurs qu'on revient toujours à Gelderode, alors que ma question portait sur votre enfance.
C'est ça.
Alors, comment se passait votre enfance?
C'était ça la question de Outerse. Comment un enfant de pêcheur flamand, je raconte maintenant dans le livre que j'espère publier, dont j'ai déjà publié une espèce d'extrait sur internet, parce que l'Académie Jacques de Decker en avril m'avait demandé un making of de mes 10 volumes, je n'avais rien. Ça n'a pas paru en avril, finalement. Le dernier tome et l'index n'ont paru qu'en novembre de cette année-ci, je raconte, je remonte jusqu'à mes 3 ans. Donc, je suis né à Nieuport, Nieuportville, ici. Pas Nieuport-Bain, mais Nieuport-Ville, dans la rue du Bateau, c'était Schepstraat à l'époque, les plaques étaient encore bilingues. Alors, dans une rue vraiment de pêcheurs, d'une famille dans laquelle il n'y avait avant moi eu que des pêcheurs. Mon père était déjà
Fils de pêcheur.
Fils de pêcheur et allait déjà en mer à 14 ans et demi. Hein. J'ai toutes les preuves, j'ai des photos, j'ai ce fameux bateau de son père. Son père était de la panne et avait d'abord ce qu'on appelle un panne-pot. Hein. Donc un bateau pratiquement sans quille qui pouvait donc se poser, atterrir
sur le sable.
Et attendre la remonte donc, de l'eau pour repartir. Hein. Mais il a été un des premiers donc, à acheter un bateau beaucoup plus grand qui ne pouvait plus aller à la panne, mais qui venait à Nieuport. Bon, c'est là qu'il a fait la connaissance de ma mère, qui était la fille, 14e enfant, d'un pêcheur d'Islande. Bon, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, etc. Après la guerre, donc, hein, lorsque j'avais 11 ans, nous avons quitté Nieuport-Ville pour Nieuport-Bain, où ma mère a ouvert une poissonnerie, mais moi, j'étais très heureux déjà en première primaire, et j'avais déjà à cette époque-là le besoin d'étudier. Disons que j'étais premier de classe, etc. Hein, donc c'est ce qui. Mais mon père n'aimait pas beaucoup ça, donc il voulait absolument que je devienne pêcheur. Hein. Alors il a tout fait pour me donner une éducation extrêmement dure. Donc je donne beaucoup d'exemples, etc., dans le petit livre là que je vais faire.
Et dont on peut lire d'ailleurs sur la communication à l'académie.
petit résumé, quoi, hein, mais qui sera beaucoup plus détaillé, j'espère, si j'ai la santé, etc., et la force de continuer. Hein. Donc, alors, pour vous donner un exemple, donc, lorsque j'étais au collège d'Ostende, donc après le collège de Nieuport, j'ai été au collège d'Ostende, mon père est venu me chercher, mon frère Daniel allait en mer avec lui. Hein, et à un moment donné, il n'était plus que deux, donc, alors qu'il fallait être trois sur son bateau, il voulait absolument que moi je les accompagne, sinon il allait faire faillite. Alors il a crié, il a pleuré, il a menacé, il a supplié, etc. Et moi j'ai dit non, je reste au collège, je veux absolument étudier. Je ne pensais pas à cette époque-là, je pensais faire les germaniques. Hein? Donc, et je voulais même travailler sur le langage des pêcheurs. Hein, donc le dialecte, hein, je ne parlais à cette époque-là que le néerlandais, hein, pour ne pas dire le flamand, hein, parce que le néerlandais, mes professeurs, même en Ostende, parlaient surtout le dialecte ostendais, nieuportois, etc. Ce qui m'intéressait, c'était la langue des pêcheurs, mais donc en rhétorique. Donc, à un moment donné, tout à fait à la fin de l'année, il fallait donc dire devant tout le monde ce qu'on allait faire. Et le soir, avant cette communication, alors moi, j'ai eu une espèce de scrupule, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, je me demandais si je ne devais quand même pas devenir prêtre, etc. Alors j'ai été voir mon professeur de poésie, qui pour le reste j'admirais beaucoup. Alors il me disait, si vous n'essayez pas au moins de devenir prêtre, vous ne serez jamais heureux dans le mariage, etc. Bon, alors moi je décide, au grand étonnement de tous mes camarades, d'aller au séminaire. Je vais donc de devenir prêtre. Puis j'ai choisi le séminaire de Bruges. Et bon, j'ai fait un an à Bruges où je ne suis pas très heureux, où nous avons des examens difficiles et où je suis toujours aussi premier. Et de sorte qu'à la fin d'année, l'évêque m'appelle et me dit, comme vous êtes toujours premier, on va vous envoyer à Louvain pour la philosophie. Alors j'ai dit, ce n'était pas l'évêque, c'était l'évêque auxiliaire, le président du séminaire. Alors je lui dis, je vais être honnête. Je doute de ma vocation. Je ne serai pas resté à Bruges. Alors il dit, mais enfin, bon, à Louvain, ce sera tout différent. Ce sont des gens beaucoup plus intéressants. Mais, alors dans ce cas-là, nous n'allons pas vous envoyer faire la philosophie, mais faites la romane, parce que des philosophes, nous en avons assez, mais nous n'avons pas du tout de romanistes. Allez, à cette époque-là, ça n'existait pas, hein, un romaniste flamand. Personne ne faisait ce genre d'études. Alors moi, j'avais lu des livres français, quoi.
Et là, on est à quelle époque, dans le fond?
On est en 53. 53. D'accord. Donc, je suis parti à Louvain en 54. Mm-hmm. Hein. Donc, j'ai été en romane, mais j'ai quitté les séminaires au bout de 3 mois. Dès que j'ai vu les filles à Louvain, ouais, etc., ce qu'à l'époque, on ne voyait jamais, ouais, avant, hein. On ne se rend pas compte de la façon
tandis
dont...
Tandis que là, vous étiez dans des cours mixtes.
Tout de suite, et donc, et là, dans les cours mixtes.
On peut découvrir la langue française et les jeunes filles.
Cours mixtes, jeunes filles, garçons, et en même temps, francophones et flamands étaient encore mêlés. Hein. Ouais. Alors, bon, je n'aimais pas tellement ces études de roman, sauf un professeur qui était brillant, Hans, hein, Joseph Hans.
Hein, et qui vous remarque. Hein.
Qui me remarque assez rapidement, qui pour commencer est un des seuls qui s'occupe, qui a pitié de ces quelques flamands, hein, et qui nous donne par semaine une leçon de français. C'était aussi une façon pour lui de nous faire acheter son dictionnaire.
Oui, rappelons que son dictionnaire, dont la première édition est de 49, je crois,
c'est, ça, hein,
c'est le dictionnaire des difficultés de la grammatical. Langue grammaticale en français. Donc c'est un instrument idéal pour quelqu'un comme vous.
Dont je me sers encore maintenant. Ouais. Mais c'est un instrument dans lequel... Donc moi, je ne savais pas du tout le français. Hein. Donc j'ai appris le français très rapidement, donc en parlant avec les francophones, et aussi en étudiant tous les jours une dizaine de pages dans le dictionnaire de Hans. Hein. Ah, okay. Donc j'avais de très bonnes mémoires à cette époque-là, et de sorte que, bon, à la fin de l'année, ce que je dois dire, donc, c'est qu'au bout de 3 mois, j'ai quitté les séminaires. J'étais, évidemment, mon père était furieux, je n'avais pas d'argent, j'avais...
une bourse.
Je n'avais pas encore bourse.
Pas encore.
Non. Donc, j'ai été dire au séminaire donc, que je le quittais. Ils savaient que je n'avais pas d'argent, mais j'avais été de porte en porte pour mendier pour les vocations tardives. J'avais 10 000 francs belges. Hein, 10 000 francs. Et le président du séminaire dit, gardez ces 10 000 francs. Avec ces 10 000 francs, vous allez atteindre la fin de l'année. Si vous avez une distinction en première session, ce qui était nécessaire à l'époque, vous aurez une bourse. Bon, j'ai eu 3 bourses, mais c'était ma mère qui allait les chercher, et ma mère les mettait en poche, et je ne recevais pas un sou. Hein.
Ça, c'est assez fou. Donc, finalement, ce sont les 10 000 francs les seuls que vous ayez eus de toutes ces bourses. Parce que les bourses, votre maman allait à la poste ou, je ne sais, la banque chercher l'argent.
C'est ça.
Et vous ne l'aviez
pas. Mais c'était ma maman qui devait signer,
c'était
etc.
C'était dur encore. Hein.
Oui. Donc, j'ai fait toutes mes études en travaillant encore. Hein. Donc, j'ai travaillé au restaurant universitaire, j'ai donné des leçons particulières, j'ai tout fait, quoi. Hein. Mm-hmm. Heureusement, à partir de la première licence, j'ai pu faire un intérim dans un collège de Louvain qui était relativement bien payé. Hein.
Mais alors, vous n'en vouliez pas à vos parents d'être aussi durs avec vous et de, finalement, parce que vous réussissiez bien,
oui,
donc ils auraient quand même pu changer d'avis à votre propos et se dire, tiens,
non,
mais dans le fond...
Ils n'ont changé d'avis que beaucoup plus tard. Hein. Ouais. Comme j'avais fait des études relativement brillantes, hein, donc plus grande distinction, etc., M. Hans m'avait conseillé de faire une thèse de doctorat. Alors bon, cette thèse de doctorat, c'était Michel de Gelderode ou la hantise du masque.
Ah, c'était pas Image de la Flandre, oui, dans la littérature française.
Non, c'est ça.
Ah, c'est-à-dire, au départ, c'était ça. Hein.
Mon mémoire de licence était Image de la Flandre. L'image de la Flandre dans les lettres françaises, donc, hein, tout court. Puis finalement, comme mémoire, j'ai dû me limiter à la campagne. Et alors, bon, avec ce mémoire, j'ai eu la plus grande distinction. On se me dit, maintenant, il faudrait faire une thèse doctorat, maintenant, sur toute la Flandre, dans toute la littérature française, etc. Bon, j'ai commencé. Entre-temps, je me suis marié. J'ai commencé, mais ça ne me plaisait pas. Jusqu'au jour où j'entends à la radio que Michel de Guédard, bon.
Et là, on est en 1962, en avril 62.
Le 1er avril. Et j'enseignais à ce moment-là à Saint-Thomas. J'étais professeur dans une école de régent, à Saint-Thomas, près de la gare du Midi à Bruxelles. Alors, on habitait à Bruxelles. En rentrant, donc, le 2, je pense, le lendemain, je vois chez un bouquiniste un paquet de livres originaux de Guédard, j'achète tout pour deux fois rien, quoi. Hein. Je commence à lire, je suis vraiment... C'est le coup de foudre. Je dis, voilà le sujet que je cherchais. Alors j'ai été voir M. Hans, qui appréciait beaucoup Guédard, qui alors a écrit une lettre à Mme de Guédard pour qu'elle me reçoive, ce qu'elle a fait. Alors, bon, j'ai beaucoup travaillé chez Mme de Guédard au début, mais au bout d'un certain temps, elle m'a plus ou moins flanqué à la porte.
Avant cela, elle aimait beaucoup vous recevoir, parce que finalement, c'était une femme un peu seule et esselée. Un jeune homme qui s'intéresse aux travaux de son mari était quand même...
C'est ça. Elle était vraiment... j'ai beaucoup fait pour elle aussi. C'était son chauffeur, son... Tous les soirs, j'allais travailler chez elle. Souvent, je n'arrivais chez elle qu'à 10 heures du soir, parce que j'avais des cours à préparer, etc. Et elle bavardait beaucoup. Je ne pouvais... Elle mettait à ma disposition à peu près toutes les archives qu'elle avait et auxquelles personne n'avait touché. J'étais vraiment le premier à voir tout ça.
Donc vous étiez alors dans cette maison de Guédard avec son bureau, avec tous ses objets.
Il y avait tous les livres, il y avait les objets, évidemment, un peu effrayants, évidemment, pour un tout jeune. Mais le soir, donc, après avoir bavardé pendant une heure, etc., elle s'endormait généralement. Elle dormait parfois jusqu'à... Une fois, elle a dormi même jusqu'à 4 heures du matin. Alors, pendant toutes ces heures qu'elle dormait, je travaillais.
Faut pas oublier qu'à cette époque-là, on est à une époque où Internet n'existe pas, les photocopies n'existent pas. Donc, c'est vraiment
rien du tout,
travail de moine copiste.
De moine copiste. Il n'y avait évidemment pas de lettres de Guédard. Moi, je ne m'intéressais pas spécialement aux lettres. Le sujet qui m'intéressait, c'était donc le théâtre de Guédard. La place du théâtre de Guédard dans l'histoire du théâtre français. J'avais, comme ça, en lisant, j'avais très rapidement le pressentiment comme ça que Guédard avait été très important pour le théâtre français. Malheureusement découvert un petit peu trop tard. Si l'on l'avait découvert plus tôt, son influence aurait été plus grande. Mais j'avais immédiatement l'impression qu'il avait, dans une certaine mesure, préparé Beckett, Ionesco, etc. Et parce qu'avant eux, il me semblait que le théâtre français était très psychologique. Alors que Guédard a apporté quelque chose de très nouveau, disons le métaphysique, le mystère, et surtout le côté pictural, quoi.
Est-ce qu'on pourrait dire que la découverte par Paris de Guédard est venue tellement proche de l'émergence de Ionesco et Beckett que finalement ça lui a porté préjudice?
C'est ça, sûrement.
Alors qu'il y a une Guédardite, comme on dit.
Donc il y a, je donne des exemples, etc. Le théâtre de la Huchette allait jouer Guédard, mais le succès de Ionesco faisait que le théâtre n'était jamais libre, etc. Donc ça a fait beaucoup de tort. De même que, il me semble quand même, le succès de Brecht. Vers la même époque, Brecht a eu beaucoup de succès. Ces deux ont fait tort, mais quand même. Ce qui était intéressant, c'est que Gelderud, en 47, alors qu'il ne s'occupait plus du tout de théâtre, hein, a été découvert par André Rebas et sa femme Catherine Toth. Lorsque Catherine Toth lui a écrit « Ah, mais c'est ce que nous cherchons, elle dit « ça ne m'intéresse plus, c'est fini quoi hein. ». Alors elle a dû insister. En 47, elle a joué Obsignor avec un petit succès. Donc en 49 alors, Gelderud a remporté premier et troisième prix au concours des jeunes compagnies. Hein, et du coup, elle était quand même célèbre et toutes les jeunes compagnies voulaient le jouer. Quoi, hein. Donc il a quand même été joué, en 49, 50, jusqu'en 53. Hein, donc il y a quand même une quinzaine de pièces qui ont été jouées, et certaines pièces même presque une centaine de fois. Quoi, hein. Donc, mais lui, il n'y allait pratiquement jamais. Hein. Donc il était malade, son asthme l'empêchait en fait d'y aller. Il avait très très peur d'avoir une crise d'asthme dans une salle. Lorsqu'il allait au théâtre exceptionnellement, donc il restait plutôt dans les coulisses, etc.
Donc, mais revenons à vous. Alors, on est en 1962. Vous allez rendre visite souvent à la veuve de Gelderud et vous travaillez sur les textes. Et puis vient un moment où vous avez le sentiment que dans les lettres de Gelderud, dans la correspondance de Gelderud, il y a un matériau encore plus intéressant et encore plus original à travailler.
Je n'avais pas du tout l'intention de publier ces lettres, hein, mais je cherchais. Donc, ce que je trouvais chez Madame de Gelderud, c'était les lettres donc à Gelderud. Hein, il n'y avait aucune lettre de Gelderud. Alors, j'ai été voir ces gens qui m'ont... certains, donc, très lentement, au compte-gouttes, etc., donc, permis de consulter ces lettres. Et, bon, peu à peu, je me suis rendu compte que c'était intéressant pour ce que je voulais faire, l'histoire située Gelderud dans l'histoire du théâtre. Mais j'ai vu aussi, quand même, très rapidement, que Gelderud était un grand épistolier. Hein. Mais je ne pensais pas du tout à cette époque-là, donc, à publier ses lettres. Hein. Donc ça, c'est venu beaucoup plus tard, mais le problème a été ma rupture avec Madame de Gelderud assez rapidement. Hein. Donc au début, j'étais très fier. Je venais de chez Julien de la Daesse. Je lui montrais les lettres finalement que j'avais trouvées. Il les avait déjà vendues, mais bon, hein, j'avais finalement... Il fallait vraiment être détective à l'époque. Hein.
Oui, c'est... Joseph Hans a d'ailleurs dit, lorsque vous avez présenté votre thèse de doctorat, que même si vous n'avez pas votre diplôme, au moins, vous avez le métier de détective.
C'est ça. Il a dit ça au public.
Au public, donc, avant la délibération.
Avant la délibération. Et alors, je remarquais quand même très rapidement que c'était un épistolier. Hein. Donc, un grand épistolier, ça m'intéressait. De toute façon, j'ai alors... Bon, à cause des problèmes de Louvain, j'ai vraiment fait ma thèse en 68. Hein.
Oui, alors donc, le problème moment, de Louvain, c'est la scission de Louvain-Leuven et l'expulsion des francophones.
C'est ça. Moi, j'avais l'intention de continuer encore pendant 3-4 ans sur cette thèse, hein. Mais Monsieur Hans me téléphone en février, je pense, et me dit la date vraiment limite, c'est 31 mai. Alors moi, j'ai dû laisser tomber la partie, disons, histoire du théâtre, et pour me concentrer plus spécialement donc sur la biographie, la vie et la personnalité de Gelderud, hein, ce qui est devenu alors ma thèse, Michel de Gelderud ou la hantise du masque, voilà. Thèse doctorat qui a été couronnée et publiée par l'Académie. Quoi, hein. Alors, mais pour revenir un instant sur ma rupture avec Madame de Gelderud, chaque fois que j'arrivais chez elle avec quelque chose que j'avais trouvé, ah non, non, pas un mot sur Julien de la Daesse. Et c'était comme ça pour beaucoup, beaucoup d'amis. Hein. Encore beaucoup plus pour les thèmes. Donc moi, j'allais parler des Guédardiers de la Flandre, bien sûr, des Guédardiers de la politique, des Guédardiers et de la religion. Et elle ne voulait aucun de ces sujets. Alors j'ai dit, écoutez, madame, dans ce cas-là, je ne vais plus vous montrer ce que je fais et je ne vais plus vous soumettre. Donc, bon. Alors, lorsque ma thèse a... On n'a pas vraiment rompu, mais je n'y allais pratiquement plus. Aussi parce que je n'avais plus le temps. Hein. Donc, entre-temps, j'avais été nommé assistant, etc. Donc, je n'avais plus le temps. Mais au moment de la sortie de ma thèse, donc, je lui ai envoyé ou donné hein, un exemplaire avec dédicace en disant « Si ça ne vous plaît pas, si je commets des erreurs, eh bien, je ne demande pas mieux que... » de les corriger, etc.
Et ça, elle vous en a voulu après en disant...
Elle n'a plus jamais voulu me voir.
Il ne m'a même pas montré les épreuves, en quelque sorte.
C'est ça. Hein, elle voulait vraiment tout lire. Hein. Donc, et nous savons, hein, par les archives de l'ULB, hein, où sont les...
Le fonds Gelderode.
Le fonds Gelderode, qu'elle n'a lu que 20 pages. Qu'elle n'a coupé que 20 pages et qu'elle s'est arrêtée. Bon, aussi sous l'influence d'amis hein, qui lui ont dit beaucoup de mal de moi, etc. Alors que bon, j'étais beaucoup plus nuancé que ce qu'elle pensait. Alors,
quelle est la raison pour laquelle, à votre avis, avant que vous n'ayez achevé votre travail de thèse, elle vous interdisait d'aborder certains aspects aussi essentiels que ceux-là, la Flandre, la religion, la politique. Qu'est-ce qui la motivait?
Oui, elle était très anti-flamande, hein, pour commencer. Hein. Pas religieuse du tout. Hein. Ouais. Donc, elle était en ce sens-là extrêmement différente de son mari. Hein. Donc, moi, je pense que, surtout à la fin... qu'elle l'a beaucoup freiné, politiquement aussi. Hein. Donc, elle, lui, il était donc, avait reçu une éducation religieuse, avait rompu, disons, avec la religion, mais il était toujours resté. Hein. Donc, parlait quand même beaucoup de... Il y avait le théâtre populaire flamand. Madame de Gelderode n'aimait pas tout ça. Et... ne voulait pas que je parle de ce qui me semblait essentiel. Quoi, hein.
Alors, parce que d'une certaine manière, on peut quand même dire, me semble-t-il, que le théâtre de Gelderode est inspiré par la partie de la religion qui est l'Inquisition, le Moyen-Âge et la Renaissance, et des paysages, c'est qu'on dirait presque de la peinture flamande. Dans
oui, ben, tous ces grands sujets, donc tous ces grands thèmes biographiques, je les ai évidemment choisis à cause de l'œuvre, hein, parce que ce que je voulais, c'était quand même expliquer l'œuvre, enfin essayer de mieux comprendre l'œuvre, quoi. Hein. Mais alors, j'ai dit, madame, si je ne peux pas parler de la Flandre, de la politique, de la religion, de la femme, etc., qu'est-ce qui reste? Eh bien, me dit-elle que mon mari était un grand poète. Je dis, bon, je suis tout à fait d'accord, mais je ne peux pas faire de tels doctorats avec ça. Merci. Alors, bon, hein, donc...
Donc, vous rompez avec... avec elle rompt avec vous. Votre thèse est publiée à l'Académie et vient ensuite, en 1982, si je ne m'abuse, le début de votre travail sur la correspondance.
Il y a peut-être encore une petite chose que je pourrais dire. Mes parents, hein, donc, bon, n'avaient pas du tout apprécié ma thèse. Seulement, à la poissonnerie, il y avait plusieurs écrivains, Lambiotte, qui arrivaient avec Le Soir, La Libre Belgique, avec des articles extrêmement élogieux. Alors, bon, de sorte que mon père commençait alors à apprécier quand même un tout petit peu, quoi. Hein. Donc, et surtout lorsque... j'ai été interrogé à la télévision, quoi. Donc, ça n'est pas arrivé souvent, mais enfin, à ce moment-là, donc...
Sur la télévision, c'était quand même aussi encore une lucarne de célébrité beaucoup plus grande que maintenant.
Oui, c'est ça. Hein. Oui, oui, sûrement. Hein. Donc, alors, mon père me demandait des volumes, et il me demandait des dédicaces, et il vendait mes volumes avec dédicace, etc. Hein, donc, bon. Hein, mais à partir de ce moment-là, donc. Ben, mais il n'y a jamais eu de rupture, de problème avec mes parents. Hein, donc, j'ai toujours beaucoup travaillé à la poissonnerie.
Oui, donc, ça vous le racontez aussi, oui, finalement, pendant vos études, vous rentriez le week-end où vous étiez en train d'éplucher des crevettes, pour dire les choses.
Je venais pour travailler et je devais tout le temps, de sorte que j'étais pratiquement obligé chaque fois de m'enfuir, hein, de prendre mes cours, mes valises et de rentrer, surtout en seconde candidature, hein, sinon... là, j'ai vraiment risqué de ne pas réussir parce que mes parents voulaient, ne comprenaient pas.
Et est-ce que Joseph Hans était au courant de cette situation particulière?
Oui. Il m'a beaucoup soutenu, quoi. Hein? Donc, oui. Mais alors, pendant les études, quoi. Hein? Ben, pourtant, ce n'est pas Joseph Hans lui-même qui a dirigé mon mémoire de licence. C'était Michel Otten.
Ah oui.
Hein? Donc, ouais. Michel Otten et Hans.
Qui était son assistant.
Qui était son assistant. Ouais. Et Hans l'a lu, donc, une fois que mon mémoire était terminé, il était enchanté. Et c'est, bon, hein, c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé donc, de faire une thèse doctorat, quoi. Hein? Donc, il était enchanté par cette thèse que je lui avais d'ailleurs dédiée. Hein? Donc, bon. C'est passé. Je ne suis pas venu passer de la thèse donc à la correspondance. Hein? Donc, bah, évidemment, après la thèse. Donc, j'ai écrit un petit livre que vous connaissez, qui a été publié à Paris, chez Segers, où j'avais donc surtout parlé de l'histoire du théâtre, et j'avais rétabli, l'ordre chronologique que Gelderod avait beaucoup changé.
Quoi. C'était dans la collection, les petites collections carrées, c'est ça, théâtre hein, d'aujourd'hui, poète d'aujourd'hui.
Qui a eu pas mal de succès.
C'est un livre de référence.
Un livre de référence qu'on m'a souvent, demandé de le refaire, etc. Hein, à un moment donné, j'ai commencé, mais on voulait le rééditer tel quel. Hein, mais alors, moi, j'ai tellement changé que... Bon, j'avais fait ça. Après ça, j'ai eu de graves problèmes de santé, etc. Et à un moment donné, donc en 80, je me suis dit, tiens, c'est quand même bête, j'avais alors à peu près une quinzaine de milliers de lettres. Hein. Donc 8000 lettres à Gelderod, 7000 lettres de Gelderod en photocopie, hein, évidemment, quelques originales. Je trouvais quand même qu'il était dommage Alors je me suis dit, je pensais que j'allais pouvoir publier l'essentiel en 2 ans. Hein. Alors j'ai demandé une bourse, j'ai obtenu une bourse, une aide aussi, une assistante, mais au bout de 2 ans, je n'avais rien fait.